Abélard, lettre à un ami. Souvent l'exemple a plus d'effet que la parole pour exciter ou pour calmer les passions humaines. Aussi, après vous avoir fait entendre de vive voix quelques consolations, je veux retracer à vos yeux le tableau de mes propres infortunes. J'espère qu'en comparant mes malheurs et les vôtres, vous reconnaîtrez que vos épreuves ne sont rien ou qu'elles sont peu de choses et que vous aurez moins de peine à les supporter. 1. Je suis originaire d'un bourg situé à l'entrée de la Bretagne, à 8 000 environ de Nantes, vers l'Est, et appelé le Palais. Si je dois à la vertu du sol natal ou au sang qui coule dans mes veines la légèreté de mon caractère, je reçus en même temps de la nature une grande facilité pour la science. Mon père, avant de ceindre le baudrier du soldat, avait reçu quelques teintures des lettres. Et plus tard, il s'éprit pour elle d'une telle passion qu'il voulut faire donner à tous ses fils une éducation littéraire avant de les former au métier des armes. Et ainsi fut-il réalisé. J'étais son premier-né. Plus je lui étais cher, plus il s'occupa de mon instruction. De mon côté, plus j'avançais avec rapidité dans l'étude, plus je m'y attachais avec ardeur, et tel fut bientôt le charme qu'elle exerça sur mon esprit, que, renonçant à l'éclat de la gloire militaire, à ma part d'héritage, à mes privilèges de droit d'aînesse, j'abandonnai définitivement la cour de Mars pour me réfugier dans le sein de Minerve. Préférant entre tous les enseignements de la philosophie, la dialectique et son arsenal, j'échangeai les armes de la guerre contre celles de la logique et sacrifiai les triomphes des batailles aux assauts de la discussion. Je me mis à parcourir les provinces, allant partout où j'entendais dire que cet art était en honneur et toujours disputant en digne émule des péripatéticiens. 2. J'arrivai enfin à Paris, où depuis longtemps la dialectique était particulièrement florissante, auprès de Guillaume de Champeaux, considéré à juste titre comme le premier des maîtres dans ce genre d'enseignement, et je séjournai quelque temps à son école. Mais bien accueilli d'abord, je ne tardai pas à lui devenir incommode, parce que je m'attachais à réfuter certaines de ses idées, et que, ne craignant pas d'engager la bataille, j'avais parfois l'avantage. Cette hardiesse excitait aussi la colère de ceux de mes condisciples qui étaient regardés comme les premiers, colère d'autant plus grande que j'étais le plus jeune et le dernier venu. Ainsi commença la série de mes malheurs qui durent encore. Ma renommée grandissant chaque jour, l'envie s'alluma contre moi. Enfin, présumant de mon esprit au-delà des forces de mon âge, j'osais, tout jeune encore, aspirer à devenir chef d'école, et déjà j'avais marqué dans ma pensée le théâtre de mon action. C'était Melun, ville importante alors et résidence royale. Mon maître soupçonna ce dessein et mit sourdement en œuvre tous les moyens dont il disposait pour éloigner ma chair de la sienne, cherchant, avant que je quittasse son école, à m'empêcher de former la mienne et à m'enlever le lieu que j'avais choisi. Mais il avait des jaloux parmi les puissants du pays. Avec leur concours, j'arrivais à mes fins. La manifestation de son envie me valut même nombre de sympathies. Dès mes premières leçons, ma réputation de dialecticien prit une extension telle que la renommée de mes condisciples, celle de Guillaume lui-même, peu à peu resserrée, en fut comme étouffée. Le succès augmentant ma confiance, je m'empressai de transporter mon école à Corbeil, ville voisine de Paris, afin de pouvoir plus à l'aise multiplier les assauts. Mais peu après, atteint d'une maladie de langueur causée par un excès de travail, je dus retourner dans mon pays natal. Et pendant quelque temps, je fus, pour ainsi dire, séquestré de la France. J'étais ardemment regretté par tous ceux que tourmentait le goût de la dialectique. Quelques années s'étaient écoulées, depuis longtemps déjà j'étais rétabli, quand mon illustre maître, Guillaume, archidiacre de Paris, quitta son habit pour entrer dans l'ordre des clercs réguliers, avec la pensée, disait-on, que cette manifestation de zèle le pousserait dans la voie des dignités. Ce qui, en effet, ne tarda pas à arriver, car il fut fait évêque de Châlons. Ce changement de profession, toutefois, ne lui fit abandonner ni le séjour de Paris, ni ses études de philosophie, et dans le monastère même où il s'était retiré par esprit de piété, il ouvrit aussitôt un cours public d'enseignement. Je revins alors auprès de lui pour étudier la rhétorique à son école. Entre autres controverses, j'arrivais, par une argumentation irréfutable, à lui faire amender, bien plus, à ruiner sa doctrine des universaux. Sur les universaux, sa doctrine consistait à affirmer l'identité parfaite de l'essence dans tous les individus du même genre, en telle sorte que, selon lui, il n'y avait point de différence dans l'essence, mais seulement dans l'infinie variété des accidents individuels. Il en vint alors à modifier cette doctrine, c'est-à-dire qu'il affirmait toujours l'essence dans un même genre, mais non plus sans différence. Et comme cette question des universaux avait toujours été une des questions les plus importantes de la dialectique, si importante que Porphyre, la touchant dans ses préliminaires, n'osait prendre sur lui de la tranchée et disait « c'est un point très grave ». Champeau, qui avait été obligé de modifier sa pensée puis d'y renoncer, vit son cours tomber dans un tel discrédit qu'on lui permettait à peine de faire sa leçon de dialectique, comme si la dialectique consistait tout entière dans la question des universaux. Cette situation donna à mon enseignement tant de force et d'autorité que les partisans les plus passionnés de ce grand docteur et mes adversaires les plus violents l'abandonnèrent pour accourir à mes leçons. Le successeur de Champeau lui-même vint m'offrir sa chaire et se ranger avec la foule parmi mes auditeurs dans l'enceinte où avait jadis brillé d'un si vif éclat son maître et le mien. Au bout de peu de temps, je régnais donc sans partage dans le domaine de la dialectique. Quel sentiment d'envie desséchait Guillaume, quel levain d'amertume fermentait dans son cœur ! Il ne serait point facile de le dire. Il ne put pas longtemps contenir les bouillonnements de son ressentiment et il chercha encore une fois à m'écarter par la ruse. N'ayant point de motif pour me faire une guerre ouverte, il fit destituer, sur une accusation infamante, celui qui m'avait cédé sa chaire, et en mit un autre à sa place pour me faire échec. Alors, revenant moi-même à Melun, je rétablis mon école, et plus j'étais manifestement poursuivi par l'envie, plus je gagnais en considération, suivant le mot du poète, « la grandeur est en butte à l'envie, c'est contre les cimes élevées que se déchaînent les tempêtes ». Peu de temps après, sentant que la sincérité de sa piété était suspecte à la plupart de ses disciples et qu'on murmurait tout haut au sujet de sa conversion qui ne lui avait pas fait un moment quitter Paris, il se transporta, lui, sa petite confrérie et son école, dans une campagne à quelque distance de la capitale. Aussitôt, je revins de Melun à Paris avec l'espérance qu'il me laisserait la paix. Mais voyant qu'il avait fait occuper ma chaire par un rival, j'allais établir mon camp hors de la ville, sur la montagne Sainte-Geneviève, comme pour faire le siège de celui qui avait usurpé ma place. À cette nouvelle, Guillaume, perdant toute pudeur, revint à Paris, ramenant ce qu'il pouvait avoir de disciples et sa petite confrérie dans un ancien cloître, comme pour délivrer le lieutenant qu'il y avait laissé. Mais, en le voulant servir, il le perdit. En effet, le malheureux avait encore quelques disciples tels quels, à cause de ses leçons sur Priscien, qui lui avaient valu quelque réputation. Le maître, à peine de retour, il les perdit tous, dut renoncer à son école, et peu après, désespérant de la gloire de ce monde, il se convertit lui aussi à la vie monastique. Les discussions que mes élèves soutinrent avec Guillaume et ses disciples après sa rentrée à Paris, les succès que la fortune nous donna dans ces rencontres, la part qui m'en revint, sont des faits que vous connaissez depuis longtemps. Ce que je puis dire avec un sentiment plus modeste qu'Ajax, mais hardiment, c'est que, si vous demandez quelle a été l'issue de ce combat, je n'ai point été vaincu par mon ennemi. Je voudrais n'en rien dire, que les faits parleraient d'eux-mêmes et l'événement le ferait assez connaître. 3. Sur ces entrefaites, Lucie, ma tendre mère, me pressa de revenir en Bretagne. Béranger, mon père, avait pris l'habit. Elle se préparait à faire de même. La cérémonie accomplie, je revins en France, particulièrement dans l'intention d'étudier la théologie. Guillaume, qui l'enseignait depuis quelque temps, avait commencé à s'y faire un nom dans son évêché de Châlons. Il avait reçu les leçons d'Anselme de Laon, le maître le plus autorisé de ce temps. J'allais donc entendre ce vieillard. C'était à la routine, il est vrai, plutôt qu'à l'intelligence et à la mémoire qu'il devait sa réputation. Allait-on frapper à sa porte et le consulter sur quelques difficultés, on remportait plus de doutes qu'on en avait apporté. Admirable aux yeux d'un auditoire, dans une entrevue de consultation, il était nul. Il avait une merveilleuse facilité de langage, mais le fond était misérable et vide de raison. Le feu qu'il allumait remplissait la maison de fumée et n'éclairait point. C'était un arbre tout en feuilles qui, de loin, présentait un aspect imposant. De près, et quand on l'examinait avec attention, on trouvait un bois stérile. Je m'en étais approché pour recueillir quelques fruits. Je reconnus que c'était le figuier maudit par le Seigneur ou le vieux chêne auquel Lucain compare Pompée dans ses vers. Ce n'est plus que l'ombre d'un grand nom, tel le chêne altier dans une campagne féconde. La chose reconnue, je ne demeurai pas longtemps oisif sous son ombre. Je me montrai de moins en moins assidu à ses leçons. Quelques-uns de ses disciples les plus distingués en étaient blessés comme d'une marque de mépris pour un tel docteur. L'excitant donc sourdement contre moi, ils parvinrent, par leurs suggestions perfides, à l'émouvoir de jalousie. Un jour, après la séance de controverse, nous devisions familièrement entre camarades. L'un d'eux m'ayant demandé insidieusement ce que je pensais de la lecture des livres saints, moi qui n'avais encore étudié que la physique, je répondis que c'était la plus salutaire des lectures puisqu'elle nous éclairait sur le salut de notre âme, mais que j'étais extrêmement étonné que des gens instruits ne se contentassent point pour expliquer la Bible, du texte même et de la glose, et qu'il leur fallut un commentaire. Cette réponse fut accueillie par un rire général. On me demanda si je me sentais la force et la hardiesse d'entreprendre une pareille tâche. Je répondis que j'étais prêt à en faire l'épreuve si l'on voulait. Se récriant alors et riant de plus belle, « Assurément, dirent-ils, nous y consentons de grand cœur. »« Eh bien, repris-je, qu'on cherche et qu'on me donne un texte qui ne soit pas usé avec une seule glose, et je soutiendrai le défi. » D'un commun accord, ils choisirent une obscure prophétie d'Ézéchiel. Je pris la glose et je les invitai à venir, dès le lendemain, entendre mon commentaire. Me prodiguant alors des conseils que je ne voulais pas entendre, ils m'engageaient à ne point précipiter une telle épreuve, à prendre plus de temps, dans mon inexpérience, pour trouver et arrêter mon interprétation. Piqué au vif, je répondis que j'avais l'habitude de compter non sur le temps, mais sur mon intelligence. J'ajoutai que je renonçais à l'épreuve s'ils ne venaient m'entendre sans autre délai. Ma première leçon réunit, il est vrai, peu de monde. Il paraissait ridicule qu'un jeune homme, qui n'avait fait aucune étude des livres saints, les abordât si légèrement. Cependant, ceux qui m'entendirent furent tellement ravis de cette séance qu'ils en firent un éloge éclatant et m'engagèrent à donner suite à mon commentaire suivant la même méthode. La chose ébruitée, ceux qui n'avaient pas assisté à la première leçon s'empressèrent à la seconde et à la troisième, tous jaloux de prendre en note mes explications, surtout celles de la première séance. 4. Ce succès alluma l'envie du vieil Anselme. Déjà excité contre moi, comme je l'ai dit, par des instigations malveillantes, il commença à me persécuter pour mes leçons théologiques, comme avait fait Guillaume pour la philosophie. Il y avait alors dans mon école deux disciples qui passaient pour être supérieurs à tous les autres. C'était Albéric de Reims et Lotulfe de Lombardie. Ils étaient d'autant plus animés contre moi qu'ils avaient d'eux-mêmes une plus haute idée. L'esprit troublé par leurs insinuations, ainsi que j'en eus plus tard la preuve, le vieillard m'interdit brutalement de continuer dans sa chair le commentaire que j'avais commencé, sous le prétexte que les opinions erronées que je pourrais émettre dans mon inexpérience de la matière seraient mises à sa charge. La nouvelle de cette interdiction répandue dans l'école, l'indignation fut grande. Jamais l'envie n'avait si ouvertement frappé ses coups. Mais plus l'attaque était manifeste, plus elle tournait à mon honneur, et les persécutions ne firent qu'accroître ma renommée. 5. Je revins donc peu après à Paris. Je remontai dans la chaire qui m'était depuis longtemps destinée, de laquelle j'avais été expulsé. Je l'occupai tranquillement pendant quelques années. Dès l'ouverture du cours, reprenant les textes d'Ézéchiel dont j'avais commencé l'explication à l'an, je pris à tâche d'en terminer l'étude. Ces leçons furent si bien accueillies que bientôt le crédit du théologien ne parut pas moins grand que n'avait été jadis celui du philosophe. L'enthousiasme multipliait le nombre des auditeurs de mes deux cours. Quels bénéfices ils me rapportaient et quelle gloire, la renommée a dû vous la prendre. Mais la prospérité enfle toujours les sceaux. La sécurité de ce monde énerve la vigueur de l'âme et la brise aisément par les attraits de la chair. Me croyant désormais le seul philosophe sur terre, ne voyant plus d'attaques à redouter, je commençais, moi qui avais toujours vécu dans la plus grande continence, à lâcher la bride à mes passions. Et plus j'avançais dans la voie de la philosophie et de la théologie, plus je m'éloignais par l'impureté de ma vie des philosophes et des saints. Car il est certain que les philosophes, à plus forte raison les saints, je veux dire ceux qui appliquent leur cœur aux leçons de l'Écriture, ont dû leur grandeur surtout à leur chasteté. J'étais donc dévoré par la fièvre de l'orgueil et de la luxure. La grâce divine vint me guérir malgré moi de ces deux maladies. De la luxure d'abord, puis de l'orgueil. De la luxure en me privant des moyens de la satisfaire. De l'orgueil que la science avait fait naître en moi, suivant la parole de l'apôtre, la science enfle le cœur, en m'humiliant par la destruction de ce livre fameux dont je tirais particulièrement vanité et qui fut brûlé. 6. Je veux vous initier à cette double histoire. L'exposition des faits vous la fera mieux connaître que tous les bruits qui en ont couru. Je suivrai l'ordre des événements. J'avais de l'aversion pour les impurs commerces de la débauche. La préparation laborieuse de mes leçons ne me permettait guère de fréquenter la société des femmes de noble naissance. J'étais aussi presque sans relation avec celle de la bourgeoisie. La fortune me caressant, comme on dit, pour me trahir, trouva un moyen plus facile pour me précipiter du fait de ses grandeurs et ramener par l'humiliation au sentiment du devoir envers Dieu le cœur superbe qui avait méconnu les bienfaits de sa grâce. Il existait à Paris une jeune fille nommée Héloïse. Elle était nièce d'un chanoine appelé Fulbert, lequel, par tendresse, n'avait rien négligé pour pousser l'éducation de sa pupille. Physiquement, elle n'était pas mal. Par l'étendue du savoir, elle était des plus distinguées. Ces avantages de l'instruction, si rares chez les femmes, ajoutaient à ses attraits. Aussi était-elle déjà en grand renom dans tout le royaume. La voyant donc parée de toutes les séductions, je pensais à entrer en rapport avec elle et je m'assurais que rien ne serait plus facile que de réussir. J'avais une telle réputation, une telle grâce de jeunesse et de beauté, que je croyais n'avoir aucun refus à craindre, quelle que fût la femme que j'honorasse de mon amour. Je me persuadais d'ailleurs que la jeune fille se rendrait à mes désirs d'autant plus aisément qu'elle était instruite et aimait l'instruction. Même séparés, nous pourrions nous rendre présents l'un à l'autre par un échange de lettres. La plume est plus hardie que la bouche. Ainsi se perpétueraient des entretiens délicieux. Tout enflammé de passion, je cherchais donc l'occasion de nouer des rapports intimes et journaliers qui familiariseraient cette jeune fille avec moi et la mèneraient plus aisément à céder. Pour y arriver, j'entrai en relation avec son oncle par l'intermédiaire de quelques-uns de ses amis. Ils l'engagèrent à me prendre dans sa maison, qui était très voisine de mon école, moyennant une pension dont ils fixeraient le prix. J'alléguai pour motif que les soins d'un ménage nuisaient à mes études et m'étaient trop onéreux. Fulbert aimait l'argent. Ajoutait qu'il était jaloux de faciliter à sa nièce tous les moyens de progrès dans la carrière des belles-lettres. En flattant ces deux passions, j'obtins sans peine son consentement et j'arrivai à ce que je souhaitais. Le vieillard céda à la cupidité qui le dévorait, en même temps qu'à l'espoir que sa nièce profiterait de mon savoir. Répondant même à mes vœux sur ce point au-delà de toute espérance et servant lui-même mon amour, il confia Héloïse à ma direction pleine et entière, m'invita à consacrer à son éducation tous les instants de loisir que me laisserait l'école, la nuit comme le jour, et quand je la trouverais en faute, à ne pas craindre de la châtier. J'admirais sa naïveté et ne pouvais revenir de mon étonnement. confier ainsi une tendre brebis à un loup affamé, me la donner non seulement à instruire, mais à contraindre, à châtier, était-ce autre chose que d'offrir toute licence à mes désirs et me fournir, fût-ce contre mon gré, l'occasion de fléchir par les menaces et par les coups, si les caresses étaient impuissantes? Mais deux choses écartaient de l'esprit de Fulbert tout soupçon injurieux, la tendresse filiale de sa nièce et ma réputation de continence. Bref, nous fûmes d'abord réunis par le même toit, puis par le cœur. Sous prétexte d'étudier, nous étions tout entiers à l'amour. Ces mystérieux entretiens, que l'amour appelait de ses vœux, les leçons nous ont ménagé l'occasion. Les livres étaient ouverts, mais ils se mêlaient, dans les leçons, plus de paroles d'amour que de philosophie, plus de baisers que d'explications. Mes mains revenaient plus souvent à son sein qu'à nos livres. L'amour se réfléchissait dans nos yeux plus souvent que la lecture ne les dirigeait sur les textes. Pour mieux éloigner les soupçons, j'allais quelquefois jusqu'à la frapper. Coup donné par l'amour, non par la colère, par la tendresse, non par la haine, et plus doux que tous les baumes. Que vous dirais-je ? Dans notre ardeur, nous avons traversé toutes les phases de l'amour. Tout ce que la passion peut imaginer de raffinement, nous l'avons épuisé. Plus ces joies étaient nouvelles pour nous, plus nous les prolongions avec délire. Nous ne pouvions nous en lasser. Cependant, à mesure que la passion du plaisir m'envahissait, je pensais de moins en moins à l'étude et à mon école. C'était pour moi un violent ennui d'y aller ou d'y rester. C'était aussi une fatigue, mes nuits étant données à l'amour, mes journées au travail. Je ne faisais plus mes leçons qu'avec indifférence et tiédeur. Je ne parlais plus d'inspiration, mais de mémoire. Je ne faisais guère que répéter mes anciennes leçons, et si j'avais assez de liberté d'esprit pour composer quelques pièces de vers, c'était l'amour, non la philosophie, qui me les dictait. De ces vers, vous le savez, la plupart, devenus populaires en même pays, sont encore chantés par ceux qui se trouvent sous le charme du même sentiment. Quelles furent la tristesse, la douleur, les plaintes de mes disciples quand ils s'aperçurent de la préoccupation, que dis-je, du trouble de mon esprit ? On peut à peine s'en faire une idée. Une chose aussi visible ne pouvait guère échapper qu'à celui dont l'honneur y était particulièrement intéressé, je veux dire à l'oncle d'Héloïse. On avait essayé de lui donner des inquiétudes. Il n'y pouvait ajouter foi, d'abord ainsi que je l'ai dit, à cause de l'affection sans borne qu'il avait pour sa nièce, ensuite à cause de ma réputation de continence. On ne croit pas aisément à l'infamie de ceux qu'on aime, et dans un cœur rempli d'une tendresse profonde, il n'y a point place pour les souillures du soupçon. De là vient que saint Jérôme a écrit dans sa lettre à Sabinien « Nous sommes toujours les derniers à connaître les plaies de notre maison, et nous ignorons encore les vices de nos enfants et de nos épouses quand ils sont déjà publiquement la risée de la foule. » Mais ce qu'on apprend après les autres, on finit toujours par l'apprendre, et ce qui est connu de tous ne peut rester caché à un seul. Ce fut ce qui, après quelques mois, nous arriva. Quel déchirement pour l'oncle à cette découverte! Quelle douleur pour les amants contraints de se séparer! Quelle honte, quelle confusion pour moi! De quel cœur brisé je déplorais l'affliction de la pauvre enfant! Et quel flot de désespoir souleva dans mon âme la pensée de mon propre déshonneur. Chacun de nous gémissait, non sur notre propre sort, mais sur le sort de l'autre. Chacun de nous déplorait l'infortune de l'autre, non la sienne. Mais la séparation des corps ne faisait que resserrer l'étreinte des cœurs. Privé de toute satisfaction, notre amour s'enflammait davantage. La pensée du scandale subi nous rendait insensibles au scandale, et le sentiment de la honte nous devenait d'autant plus indifférent que la jouissance de la possession était plus douce. Il nous arriva donc ce que la mythologie raconte de Mars et de Vénus surprises ensemble. Peu après, Héloïse sentit qu'elle était mère et me l'écrivit avec des transports d'allégresse, me consultant sur ce qu'elle devait faire. Une nuit, pendant l'absence de Fulbert, je l'enlevai furtivement, ainsi que nous en étions convenus, et je la fis immédiatement passer en Bretagne, où elle resta chez ma sœur, jusqu'au jour où elle donna naissance à un fils, qu'elle nomma Astralabe. Cette fuite rendit Fulbert comme fou. Il faut avoir été témoin de la violence de sa douleur, des abattements de sa confusion, pour en concevoir une idée. Que faire contre moi? Quelles embûches me tendre? Il ne le savait. Me tuer? Me mutiler? Avant tout, il craignait d'appeler les représailles des miens, en Bretagne, sur sa nièce chérie. Se saisir de moi pour me réduire en chartre privé était chose impossible. Je me tenais en garde, convaincu qu'il était homme à oser tout ce qu'il pourrait, tout ce qu'il croirait pouvoir faire. Enfin, touché de compassion pour l'excès de sa douleur et m'accusant moi-même du vol que lui avait fait mon amour, comme de la dernière des trahisons, j'allais le trouver. Je le suppliais, je lui promis toutes les réparations qu'il lui plairait d'exiger. Je protestais que ce que j'avais fait ne surprendrait aucun de ceux qui avaient éprouvé la violence de l'amour et qui savaient dans quels abîmes, depuis la naissance du monde, les femmes avaient précipité les plus grands hommes. Pour mieux l'apaiser encore, je lui offris une satisfaction qui dépassait tout ce qu'il avait pu espérer. Je lui proposai d'épouser celle que j'avais séduite, à la seule condition que le mariage fût tenu secret, afin de ne pas nuire à ma réputation. Il accepta. Il m'engagea sa parole et celle de ses amis, et celle-là de ses baisers, la réconciliation que je sollicitais. C'était pour mieux me trahir. 7. J'allai aussitôt en Bretagne afin d'en ramener mon amante et d'en faire ma femme. Mais elle n'approuvait pas le parti que j'avais pris. Bien plus, elle me détourna de le suivre pour deux raisons. Le péril d'abord, puis le déshonneur auquel j'allais m'exposer. Elle jurait qu'aucune satisfaction n'apaiserait son oncle, et l'événement le prouva. Elle demandait quelle gloire elle pourrait tirer d'un mariage qui ruinerait ma gloire et la dégraderait, elle comme moi. Et puis, quelle expiation le monde ne serait-il pas en droit d'exiger d'elle si elle lui ravissait un tel flambeau? Quelle malédiction elle appellerait sur ma tête? Quel préjudice ce mariage porterait à l'Église? Quelles larmes il coûterait à la philosophie? Combien ne serait-il pas inconvenant et déplorable de voir un homme que la nature avait créé pour le monde entier, asservi à une femme et courbé sous un joug honteux? Elle repoussait donc énergiquement cette union comme un déshonneur et comme une charge pour moi. Elle me représentait à la fois l'avilissement et les difficultés du mariage, difficultés que l'apôtre nous exhorte à éviter quand il dit « Es-tu délivré de femme? Ne cherche point femme. » Se marier pour l'homme n'est point péché, ce n'est point péché non plus pour la femme. Cependant, ils seront soumis aux tribulations de la chair, et je veux vous épargner. Et plus bas, je veux que vous soyez sans inquiétude, que si je ne me rendais ni aux conseils de l'apôtre, ni aux exhortations des saints sur les entraves du mariage, je devais au moins, disait-elle, écouter les philosophes et prendre en considération ce qui avait été écrit à ce sujet, soit par eux, soit pour eux, ainsi que le plus souvent les saints le faisaient avec soin pour nous gourmander. Témoin, disait-elle, ce passage de saint Jérôme, contre Jovinien, livre 1, où il rappelle que Théophraste, après avoir retracé en détail les intolérables ennuis du mariage et ses perpétuelles inquiétudes, prouve par les arguments les plus convaincants que le sage ne doit pas se marier et couronne ses conseils de la philosophie par cette observation « Quel est le chrétien qui ne serait pas confondu de trouver une telle argumentation chez Théophraste ?» Dans le même livre, continuait-elle, saint Jérôme cite encore l'exemple de Cicéron qui, sollicité par Hirtius d'épouser sa sœur après la répudation de Terentia, s'y refusa formellement, disant qu'il ne pouvait donner à la fois ses soins à une femme et à la philosophie. Il ne dit pas « donner ses soins », mais il ajoute, ce qui revient au même, qu'il ne voulait rien faire qui pût balancer pour lui l'étude de la philosophie. « Mais ne parlons pas, poursuivait-elle, des entraves qu'une femme apporterait à vos études de philosophie et songez à la situation que vous donnerait une alliance légitime. Quel rapport peut-il y avoir entre les travaux de l'école et le train d'une maison, entre un pupitre et un berceau, un livre ou une tablette et une quenouille, un style ou une plume et un fuseau? Est-il un homme qui, livré aux méditations de l'écriture ou de la philosophie, puisse supporter les vagissements d'un nouveau-né, les chants de la nourrice qui l'endort, le va-et-vient du service, hommes et femmes de la maison, la malpropreté de l'enfance. Les riches le font bien, direz-vous. Oui, sans doute, parce qu'ils ont dans leur palais ou dans leur vaste demeure des appartements réservés, parce que l'argent ne coûte point à leur opulence et qu'ils ne connaissent pas les soucis de chaque jour. Mais la condition des philosophes n'est pas la même que celle des riches, et ceux qui cherchent la fortune ou dont la vie appartient aux choses de ce monde ne se livrent guère à l'étude de l'écriture ou de la philosophie. Aussi voyons-nous les philosophes célèbres du temps passé, pleins de mépris pour le monde, quittant, que dis-je, fuyant le siècle, s'interdire toute espèce de plaisir et ne se reposer que dans le sein de la philosophie. C'est ainsi que l'un d'eux, le grand Sénèque, dit dans ses lettres à Lucilius. Ce n'est pas dans les moments perdus qu'il convient de se livrer à la philosophie. Il faut tout négliger pour s'y livrer sans partage. On ne lui donnera jamais assez de temps. La laisser de côté pour un moment, c'est presque même chose que d'y renoncer. Toute interruption en fait perdre le fruit. Il faut donc résister aux occupations et, bien loin d'en accroître l'étendue, les écarter de soi. Ce que les moines, véritablement dignes de ce nom, acceptent chez nous en vue de l'amour de Dieu, les philosophes distingués l'ont pratiqué par amour de la philosophie. Chez tous les peuples, en effet, gentils, juifs ou chrétiens, il sait de tout temps rencontrer des hommes s'élevant au-dessus du vulgaire par la foi ou par la sévérité des mœurs et se séparant de la foule par une continence ou par une austérité singulière. Tels furent dans l'Antiquité, chez les Juifs, les Nazaréens qui se consacraient au service du Seigneur suivant la loi et les fils des prophètes et les sectateurs d'Élie et d'Élisée que l'Ancien Testament, d'accord avec le témoignage de saint Jérôme, nous représente comme des moines. Telles, plus tard, ces trois sectes de philosophes que Joseph, dans son 18e livre des Antiquités, distingue sous le nom de pharisiens, de sadducéens et d'esséniens. Tels chez nous, les moines qui vivent en commun, suivant l'exemple des apôtres, ou qui prennent pour modèle la vie solitaire et primitive de Jean. Tels enfin chez les gentils, les philosophes. Car c'est moins à l'intelligence de la science qu'à l'austérité des mœurs que ce nom de sagesse ou de philosophie était attribué, ainsi que nous l'apprennent l'étymologie du mot et le témoignage des saints, comme le dit saint Augustin dans ce passage du 8e livre de la Cité de Dieu, où il établit la distinction des sectes philosophiques. L'école italique eut pour fondateur Pythagore de Samos, qui passe pour avoir donné son nom à la philosophie elle-même. Avant lui, on appelait sages les hommes qui semblaient l'emporter sur les autres par un genre de vie digne d'éloge. Mais, interrogé un jour sur sa profession, il répondit qu'il était philosophe, c'est-à-dire sectateur ou ami de la sagesse, trouvant qu'on ne pouvait sans orgueil faire profession d'être sage. Cette expression, ceux qui semblaient l'emporter sur les autres par un genre de vie digne d'éloge, indique clairement que les sages, c'est les gentils, c'est-à-dire les philosophes, devaient ce nom à leur mœurs plutôt qu'à leur savoir. Quant à la sagesse de leur mœurs, je ne chercherai pas à en rassembler les preuves, j'aurai l'air de faire la leçon à Minerve. Mais si les laïcs, les gentils, ont ainsi vécu, sans être enchaînés par aucune espèce de vœu religieux, vous qui êtes clairs et revêtus du canonicat, irez-vous préférer des voluptés honteuses à votre sacré ministère, vous précipiter dans ce gouffre de Charybde, et, bravant toute honte, vous plongerez à jamais dans les abîmes de l'impureté? Si vous ne tenez compte des devoirs du clerc, songez au moins à la dignité du philosophe. À défaut du respect de Dieu, laissez le sentiment de l'honneur mettre un frein à votre impudeur. Rappelez-vous que Socrate a été marié et par quelle triste peine il expia cette tâche imprimée à la philosophie, comme pour que son exemple servît à rendre les hommes plus sages. Ce trait n'a pas échappé à saint Jérôme, qui, dans son premier livre contre Jovinien, écrit au sujet même de Socrate « Un jour, ayant voulu tenir tête à l'orage d'injures que Xantippe faisait tomber sur lui d'un étage supérieur, il se sentit arrosé d'un liquide impur. « Je savais bien, dit-il pour toute réponse, en s'essuyant la tête, que ce tonnerre amènerait la pluie. » Enfin, parlant en son nom, elle me représentait combien il serait dangereux pour moi de la ramener à Paris, combien le titre d'amante, plus honorable pour moi, lui serait, à elle, plus cher que celui d'épouse, à elle qui voulait me conserver par le charme de la tendresse, non m'enchaîner par les liens du mariage. Elle ajoutait que nos séparations momentanées rendraient les rapprochements d'autant plus doux qu'ils seraient plus rares. Puis, voyant que ses efforts pour me dissuader venaient échouer contre ma folie et n'osant me heurter de front, elle termina ainsi, à travers les sanglots et les larmes, « C'est la seule chose qui nous reste à faire si nous voulons achever de nous perdre tous les deux et nous préparer un chagrin égal à notre amour. » Et, en cela, le monde entier l'a reconnue, elle eut les lumières de l'esprit de prophétie. Nous recommandons donc à ma sœur notre jeune enfant et nous revenons secrètement à Paris. Quelques jours plus tard, après avoir passé une nuit à célébrer vigile dans une église, à l'aube du matin, en présence de l'oncle d'Héloïse et de plusieurs de ses amis et des nôtres, nous reçûmes la bénédiction nuptiale. Puis nous nous retirâmes secrètement chacun de notre côté, et dès lors nous ne nous vîmes plus qu'à de rares intervalles et furtivement, afin de tenir le mieux qu'il serait possible notre union cachée. 8. Mais Fulbert et les siens, pour se venger de l'affront qu'ils avaient reçu, se mirent à divulguer le mariage et à violer envers moi la foi jurée. Héloïse protestait hautement du contraire et jurait que rien n'était plus faux. Fulbert exaspéré l'accablait de mauvais traitements. Informé de cette situation, je l'envoyai à une abbaye de nonnes voisine de Paris et appelée Argenteuil, où elle avait été élevée et instruite dans sa première jeunesse, et, à l'exception du voile, je lui fis prendre les habits de religion en harmonie avec la vie monastique. À cette nouvelle, son oncle ou ses parents ou alliés pensèrent que je m'étais joué d'eux et que j'avais mis Héloïse au couvent pour m'en débarrasser. Outrés d'indignation, ils s'entendirent, et une nuit, pendant que je reposais chez moi dans une chambre retirée, un de mes serviteurs, corrompu à prix d'or, les ayant introduits, ils me firent subir la plus barbare et la plus honteuse des vengeances, vengeance que le monde entier apprit avec stupéfaction. Ils me tranchèrent les parties du corps avec lesquelles j'avais commis ce dont ils se plaignaient, puis ils prirent la fuite. Deux d'entre eux qu'on put arrêter furent privés de la vue et des organes de la génération. L'un d'eux était le serviteur particulièrement attaché à ma personne, que la cupidité avait poussé à la trahison. Le matin venu, la ville entière était rassemblée autour de ma maison. Dire l'étonnement, la stupeur générale, les lamentations, les cris, les gémissements dont on me fatiguait, dont on me torturait, serait chose difficile, impossible. Les clercs surtout, et plus particulièrement mes disciples, me martyrisaient par leurs gémissements intolérables. Je souffrais de leur compassion plus que de ma blessure. Je sentais ma honte plus que ma mutilation. J'étais plus accablé par la confusion que par la douleur. Mille pensées se présentaient à mon esprit. De quelle gloire je jouissais encore tout à l'heure, avec quelle facilité elle avait été, en un moment, abaissée, détruite. Combien était juste le jugement de Dieu qui me frappa dans la partie de mon corps qui avait péché. Combien étaient légitimes les représailles de Fulbert qui m'avaient rendu trahison pour trahison. Quel triomphe pour mes ennemis de voir le châtiment égalé à la faute. Quelle peine inconsolable le coup qui me frappait porterait dans l'âme de mes parents et de mes amis. Comme l'histoire de ce déshonneur sans précédent allait se répandre dans le monde entier. Où passer maintenant? Comment paraître en public? J'allais être montré au doigt par tout le monde, déchiré par toutes les langues, devenir pour tous une sorte de monstre. Ce qui contribuait encore à m'atterrer, c'était la pensée que, selon la lettre meurtrière de la loi, les eunuques sont en telle abomination devant Dieu, que les hommes réduits à cet état par l'amputation ou le froissement des parties viriles sont repoussés du seuil de l'église comme fétides et immondes, et que les animaux eux-mêmes, lorsqu'ils sont ainsi mutilés, sont rejetés du sacrifice. Tout animal dont les parties génitales ont été froissées, écrasées, coupées ou enlevées, « ne sera pas offert au Seigneur, » dit le Lévitique. Et dans le Deutéronome, « l'eunuque dont les parties viriles auront été écrasées ou amputées n'entrera point dans l'Église. » Dans cet état d'abattement et de confusion, ce fut, je l'avoue, un sentiment de honte plutôt que la vocation qui me fit chercher l'ombre d'un cloître. Héloïse, suivant mes ordres avec une entière abnégation, avait déjà pris le voile et était entrée dans un monastère. Nous revêtîmes donc tous deux en même temps l'habit religieux, moi dans l'abbaye de Saint-Denis, elle dans le couvent d'Argenteuil dont j'ai parlé plus haut. On voulait, je m'en souviens, soustraire sa jeunesse au joug de la règle monastique comme à un insupportable supplice, on s'apitoyait sur son sort. Elle ne répondit qu'en laissant échapper à travers les pleurs et les sanglots la plainte de Cornélie. « Ô noble époux, si peu fait pour un tel hymen! Ma fortune avait-elle donc ce droit sur une tête si haute? Criminelle que je suis, devais-je t'épouser pour causer ton malheur? Reçois en expiation ce châtiment au-devant duquel je veux aller. » C'est en prononçant ces mots qu'elle marcha vers l'autel, reçut des mains de l'évêque le voile béni et prononça publiquement le serment de la profession monastique. 9. À peine étais-je convalescent de ma blessure, qu'accourant en foule, les clercs commencèrent à fatiguer notre abbé, à me fatiguer moi-même de leurs prières. Ils voulaient que ce que j'avais fait jusque-là par amour de l'argent ou de la gloire, je le fisse maintenant pour l'amour de Dieu. Ils disaient que le talent dont le Seigneur m'avait doué, le Seigneur m'en demanderait compte avec usure, que je n'étais guère encore occupé que des riches, que je devais me consacrer maintenant à l'éducation des pauvres. Que je ne pouvais méconnaître que, si la main de Dieu m'avait touché, c'était afin qu'affranchi des séductions de la chair et de la vie tumultueuse du siècle, je puisse me livrer à l'étude des lettres et de philosophes du monde, devenir le vrai philosophe de Dieu. Or l'abbaye où je m'étais retiré était livrée à tous les désordres de la vie mondaine. L'abbé lui-même ne tenait le premier rang entre tous que par la dissolution et l'infamie de ses mœurs. Je m'étais plus d'une fois élevé contre ces scandaleux déportements, tantôt en particulier, tantôt en public, et je m'étais ainsi rendu odieux et insupportable à tous. Si bien que, charmé des instances journellement répétées de mes disciples, ils profitèrent de l'occasion pour m'écarter. Pressé par les sollicitations incessantes des écoliers et cédant à l'intervention de l'abbé et des frères, je me retirai dans un prieuré pour reprendre mes habitudes d'enseignement. Et telle fut l'affluence des auditeurs que le lieu ne suffisait pas à les loger, ni la terre à les nourrir. Là, conformément à mon caractère, je me livrai particulièrement à l'enseignement de la théologie. Toutefois, je ne répudiais pas entièrement l'étude des arts séculiers dont j'avais plus particulièrement l'habitude et qu'on attendait spécialement de moi. J'en fis une amorce pour attirer ceux qui m'écoutaient par une sorte d'avant-goût philosophique à l'étude de la vraie philosophie selon la méthode attribuée par l'histoire ecclésiastique au plus grand des philosophes chrétiens, Origène. Et comme le Seigneur semblait ne m'avoir pas moins favorisé pour l'intelligence des saintes écritures que pour celle des lettres profanes, le nombre de mes auditeurs, attiré par les deux cours, ne tarda pas à s'accroître, tandis que l'auditoire des autres se dépeuplait. Ce qui excita contre moi l'envie et l'inimitié des maîtres. Tous travaillaient à me dénigrer. Mais deux surtout profitaient de mon éloignement pour établir contre moi que rien n'était plus contraire au but de la profession monastique que de s'arrêter à l'étude des livres profanes et qu'il y avait présomption de ma part à monter dans une chaire de théologie sans le concours d'un théologien. Ce qu'ils voulaient, c'était me faire interdire l'exercice de tout enseignement et ils y poussaient incessamment les évêques, les archevêques, les abbés, en un mot, toutes les personnes ayant nom dans la hiérarchie ecclésiastique. 10. Or, il arriva que je m'attachai d'abord à discuter le principe fondamental de notre foi par des analogies et que je composais un traité sur l'unité et la trinité divine à l'usage de mes disciples et qui demandait sur ce sujet des raisonnements humains et philosophiques et auxquels il fallait des démonstrations, non des mots. Il disait en effet qu'il n'avait pas besoin de vaines paroles, qu'on ne peut croire que ce que l'on a compris et qu'il est ridicule de prêcher aux autres ce qu'on ne comprend pas plus que ceux auxquels on s'adresse. Que le Seigneur lui-même condamne les aveugles qui conduisent les aveugles. On vit ce traité, on le lut et, généralement, on en fut content parce qu'il semblait répondre à tous les points du sujet. Et ces points paraissant d'une difficulté transcendante, plus on en reconnaissait la gravité, plus on en admirait la solution. Mes rivaux, furieux, assemblèrent contre moi un concile. À leur tête étaient les deux meneurs d'autrefois, Albéric et Lotulfe, qui, depuis la mort de nos maîtres communs, Guillaume et Anselme, avaient la prétention de régner et de se porter leurs seuls héritiers. Ils tenaient tous deux école à Reims. Par leurs suggestions réitérées, ils déterminèrent leur archevêque Raoul à appeler Conan, évêque de Prénest, qui remplissait alors en France la mission de légat, à réunir une sorte d'assemblée sous le nom de concile dans la ville de Soissons et m'inviter à leur apporter ce fameux ouvrage que j'avais composé sur la Trinité. Ainsi fut-il fait. Mes deux rivaux m'avaient tellement calomnié dans le clergé et dans le peuple qu'il s'en fallut de peu qu'à mon arrivée à Soissons, la foule ne me lapida, moi et ceux qui m'accompagnaient, sous le prétexte que j'enseignais et que j'avais écrit qu'il y avait trois dieux. C'était ce qu'on leur avait persuadé. Cependant, à peine entré en ville, j'allai trouver le légat, je lui remis mon livre, l'abandonnant à son examen et à son jugement, et me déclarant prêt, soit à amender ma doctrine, soit à faire réparation, si j'avais rien écrit qui s'écartât des principes de la foi. Le légat m'enjoignit aussi de porter le livre à l'archevêque et à mes deux rivaux, me renvoyant au jugement de ceux qui m'accusaient. En sorte que la parole divine fut ainsi accomplie envers moi, et nos ennemis sont nos juges. Ceux-ci, après avoir feuilleté et scruté le livre en tous sens, n'y trouvant rien qu'ils osassent produire contre moi à l'audience, ajournèrent à la fin du concile cette condamnation à laquelle ils aspiraient. Pour moi, j'avais employé tous les jours qui avaient précédé le concile à établir publiquement les bases de la foi catholique dans le sens de mes écrits, et tous mes auditeurs exaltaient avec une admiration sans réserve mes commentaires et leur esprit. Le peuple et le clergé, témoins de ce spectacle, commencèrent à se dire « Voici maintenant qu'il parle devant tout le monde et que personne ne lui répond, et le concile qu'on nous disait réuni principalement contre lui touche à sa fin. Est-ce que les juges auraient reconnu que l'erreur est plutôt de leur côté que du mien ?» Et ce langage excitait chaque jour davantage la fureur de mes rivaux. Un jour, Albéric, dans l'intention de me tendre un piège, vint me trouver avec quelques-uns de ses disciples. Après quelques mots de politesse, il me dit qu'il avait remarqué dans mon livre un passage qui l'avait étonné. Dieu ayant engendré Dieu et Dieu n'étant qu'un, comment pouvais-je nier que Dieu se fût engendré lui-même ? C'est, répondis-je aussitôt, une thèse que je vais, si vous voulez, démontrer rationnellement. En telle matière, répondit-il, nous ne tenons point compte de la raison humaine et de notre sentiment. Nous ne reconnaissons que les paroles de l'autorité. Eh bien, lui dis-je, tournez le feuillet et vous verrez l'autorité. Nous avions justement sous la main le livre qu'il avait pris avec lui. Je me reportai au passage que je connaissais et qui lui avait échappé ou qu'il n'avait pas voulu voir parce qu'il ne cherchait dans mon livre que ce qui pouvait me nuire. Et la volonté de Dieu fit que je trouvai aussitôt ce que je voulais. C'était la citation de saint Augustin sur la Trinité, livre premier. Celui qui suppose à Dieu la puissance de s'être engendré lui-même se trompe d'autant plus que ce n'est pas à l'égard de Dieu seulement qu'il n'en est pas ainsi, mais à l'égard de toute créature spirituelle ou corporelle. Il n'y a absolument rien, en effet, qui s'engendre soi-même. À la lecture de cette citation, les disciples d'Albéric, qui étaient là, rougirent de stupéfaction. Quant à lui, cherchant à se retrancher de son mieux, « Le tout, dit-il, est de bien comprendre. » « Mais, répliquai-je, cela n'est point une opinion nouvelle, et pour le moment, au surplus, il importe peu, puisque ce sont des paroles que vous demandez, et non une interprétation. » J'ajoutai que, s'il voulait établir une interprétation et en appeler à la raison, j'étais prêt à raisonner et à lui démontrer par ses propres paroles qu'il était tombé dans l'hérésie de ceux qui prétendent que le Père est à lui-même son propre Fils. À ces mots, comme fou de fureur, il s'emporta en menace, s'écriant que ni mes raisonnements ni mes autorités ne me sauveraient. Et là-dessus, il se retira. Le dernier jour du concile, avant l'ouverture de la séance, le légat et l'archevêque eurent avec mes rivaux et quelques autres personnes un long entretien pour savoir ce qu'on déciderait de moi et de mon livre qui avait été l'objet principal de la convocation. Comme ni mes paroles ni les cris qu'ils avaient sous les yeux ne fournissaient matière à incrimination, il y eut un moment de silence et mes détracteurs étaient déjà moignardis lorsque Geoffroy, évêque de Chartres, qui, par sa réputation de sainteté comme par l'importance de son siège, avait la prééminence sur les autres évêques, prit la parole en ces termes. « Vous savez tous, mes seigneurs ici présents, que le savoir universel de cet homme et sa supériorité dans toutes les études auxquelles il s'est attaché lui ont fait de nombreux et fidèles partisans, qu'il a fait pâlir la renommée de ses maîtres et des nôtres, et que sa vigne, si je puis m'exprimer ainsi, a étendu ses rameaux d'une mer à l'autre. Si vous faites peser sur lui le poids d'une condamnation sans l'avoir entendu, ce que je ne pense pas, sa condamnation, fût-elle juste, blessera bien des gens, et il s'en trouvera plus d'un qui voudra prendre sa défense, alors surtout que nous ne voyons, dans l'écrit incriminé, rien qui ressemble à une attaque ouverte. On dira, selon le mot de saint Jérôme, que la force qui se montre attire les jaloux, et que, suivant le poète, les hautes cimes appellent la foudre. Craignez donc que des procédés violents contre cet homme n'aient d'autre résultat que d'accroître sa renommée, et que, par suite de la malveillance publique, l'accusation ne fasse plus de tort au juge que la sentence à l'accusé. Car un faux bruit est vite étouffé, dit le même docteur, et la seconde période de sa vie prononce sur la première. Mais si vous voulez procéder régulièrement, que l'enseignement de cet homme ou que son livre soit produit en pleine assemblée, qu'on l'interroge, qu'il soit mis en demeure de répondre, et qu'ainsi, confondu, il en vienne à confesser sa faute, ou bien qu'il soit réduit au silence, suivant le mot du bienheureux Nicodème, qui, voulant sauver notre Seigneur, disait « Depuis quand notre loi juge-t-elle un homme sans l'avoir entendu, et sans qu'on ait vérifié ce qu'il a fait ?» À ces mots, mes rivaux murmurent et s'écrient « Oh, le sage conseil de vouloir nous faire engager la lutte contre la faconde d'un homme dont les arguments et les sophismes triompheraient du monde entier !» Certes, il était plus difficile d'engager la lutte avec Jésus lui-même, et cependant Nicodème invitait les juges à l'entendre, suivant l'esprit de la loi. Geoffroy, ne pouvant les amener à sa proposition, essaie un autre moyen pour mettre un frein à leur haine. Il déclare que, dans une matière d'une telle gravité, le petit nombre des personnes présentes ne peut suffire, et que la question réclame un examen plus approfondi. Son avis est donc que mon abbé, qui siégeait, me ramène dans mon abbaye, c'est-à-dire au monastère de Saint-Denis. Là, on convoquerait un plus grand nombre de docteurs éclairés, lesquels, après mûr examen, statueraient sur le parti à prendre. Le légat approuva cette dernière motion, et après lui, tout le monde. Quelques instants après, il se leva pour aller célébrer la messe avant d'entrer au concile, et il me fit transmettre par l'évêque Geoffroy l'autorisation qui m'était accordée de revenir au monastère pour y attendre le résultat de la mesure adoptée. Alors mes ennemis, réfléchissant que tout était perdu si l'affaire se passait hors de leur diocèse, c'est-à-dire en un lieu où ils n'auraient plus droit de siéger, et peu confiants dans la justice, persuadèrent à l'archevêque que ce serait pour lui une grande honte que la cause fût déférée à un autre tribunal et qu'il y aurait péril à me laisser échapper ainsi. Et aussitôt, courant trouver le légat, ils le firent changer d'avis et l'amenèrent malgré lui à condamner sans examen mon livre, à le brûler immédiatement sous les yeux du public et à prononcer contre moi-même la réclusion perpétuelle dans un monastère éloigné. Il disait que, pour justifier la condamnation de mon livre, ce devait être assez que j'eusse osé le lire publiquement et le donner à transcrire à plusieurs personnes sans avoir obtenu la permission du pape ni celle de l'Église, et qu'il serait éminemment utile à la foi qu'un exemple prévînt pour l'avenir une telle présomption. Le légat n'était pas aussi instruit qu'il aurait dû l'être. En toute chose, il se laissait guider par l'archevêque, comme l'archevêque par eux. Pressentant le résultat de ces intrigues, l'évêque de Châlons m'avertit et m'engagea vivement à ne répondre à une violence évidente que par un redoublement de douceur. « Cette violence si manifeste, disait-il, ne pouvait que leur nuire et tourner à mon avantage. Quant à la réclusion dans un monastère, il n'y avait pas à s'en effrayer, sachant que le légat, qui n'agissait que par contrainte, ne manquerait pas, quelques jours après son départ, de me rendre ma pleine liberté. » C'est ainsi que, mêlant ses larmes aux miennes, il me consola de son mieux. Appelé au concile, je m'y rendis sur le champ. Et là, sans discussion, sans examen, on me força à jeter de ma propre main le livre au feu. Il fut brûlé au milieu d'un silence qui ne paraissait pas devoir être rompu, quand un de mes adversaires murmura timidement qu'il avait trouvé écrite cette proposition « Que Dieu le Père est seul tout-puissant ». Le prélat se récria vivement et répondit que la chose n'était pas possible, qu'un enfant ne tomberait pas dans une telle erreur, puisque la foi commune tient et professe qu'il y a trois tout-puissants. À quoi un docteur des écoles, un certain Terrière, répliqua ironiquement par ce mot de Saint-Ambroise « Et cependant, il n'y a pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. » Son évêque voulut le gourmander et l'arrêter comme coupable de lèse-majesté. Mais Terrière lui tint tête hardiment et s'écria, empruntant les paroles de Daniel, « Ainsi, fils insensé d'Israël, sans avoir vérifié la vérité, vous avez condamné le fils d'Israël. Revenez sur votre jugement et jugez le juge lui-même, vous qui l'avez établi juge pour l'enseignement de la foi et le redressement de l'erreur. Lorsqu'il devait juger, il s'est condamné par sa propre bouche. L'innocence de l'accusé a été dévoilée aujourd'hui par la miséricorde divine. Délivrez-le, comme autrefois Suzanne, de ses faux accusateurs. » Alors l'archevêque, se levant et changeant un peu la formule selon l'exigence du moment, confirma en ces termes l'opinion du légat. « À coup sûr, Monseigneur, le Père est tout-puissant, le Fils tout-puissant, le Saint-Esprit tout-puissant. Quiconque s'écarte de ce dogme est évidemment hors de voie et ne mérite pas d'être entendu. Toutefois, si vous le voulez bien, il serait bon que notre frère exposât sa foi publiquement, afin qu'on pût, selon qu'il conviendra, ou l'approuver, ou la désapprouver, ou la redresser. » Et comme je me levais pour confesser et exposer ma foi avec l'intention d'en développer l'expression à ma manière, mes adversaires dirent que je n'avais pas besoin d'autre chose que de réciter le symbole d'Athanase, ce que le premier enfant venu aurait pu faire aussi bien que moi. Et afin qu'il me fût impossible de prétexter l'ignorance, ils firent apporter le texte écrit pour me le faire lire, comme si la teneur ne m'en était pas familière. Je lus à travers les sanglots, les soupirs et les larmes, comme je pus. Livré ensuite comme coupable et convaincu à l'abbé de Saint-Médard qui était présent, je suis traîné à son cloître comme à une prison, et aussitôt le concile est dissous. 11. L'abbé et les moines de ce monastère, persuadés que j'allais le rester, me reçurent avec des transports de joie et me prodiguèrent toutes sortes d'attentions, essayant vainement de me consoler. Dieu qui juge les cœurs droits, telle était, tu le sais, la peine qui me dévorait, telle l'amertume de mon cœur que dans mon aveuglement, dans mon délire, j'osais me révolter et t'accuser, répétant sans cesse la plainte de saint Antoine. Jésus, mon sauveur, où étiez-vous ? Fièvre de la douleur, confusion de la honte, trouble du désespoir, tout ce que j'éprouvais alors, je ne saurais l'exprimer aujourd'hui. Je rapprochai le supplice infligé à mon corps des tortures de mon âme et je m'estimai le plus malheureux des hommes. Comparé à l'outrage présent, la trahison d'autrefois me paraissait peu de chose et je déplorais moins la mutilation de mon corps que la flétrissure de mon nom. J'avais provoqué la première par ma faute, la persécution qui m'accablait aujourd'hui n'avait d'autre cause que l'intention droite et l'attachement à la foi qui m'avait poussé à écrire. Cet acte de cruauté et d'injustice avait soulevé la réprobation de tous ceux qui en avaient eu connaissance, si bien que les membres du concile s'en rejetaient les uns aux autres la responsabilité. Mes rivaux eux-mêmes se défendaient de l'avoir provoqué, et le légat déplorait publiquement l'animosité du clergé des Francs. Bientôt même, cédant au repentir, ce prélat qui n'avait, un moment, donné satisfaction à leur malveillance que malgré lui, me tira de cette abbaye étrangère pour me renvoyer dans la mienne. J'y trouvai dans presque tous les frères d'anciens ennemis. Le dérèglement de leur vie, leurs habitudes de licencieux commerce dont j'ai parlé plus haut, rendaient suspect à leurs yeux un homme dont ils auraient à supporter les vives censures. Quelques mois à peine s'étaient écoulés que la fortune leur offrit l'occasion de me perdre. Un jour, dans une lecture, je tombai sur un passage de l'exposition des Actes des Apôtres de Bède, où cet auteur prétend que Denis l'Aréopagite était évêque de Corinthe, non d'Athènes. Cette opinion contrariait vivement les moines de Saint-Denis, qui se vantent que le fondateur de leur ordre, Denis, est précisément l'aréopagite. Je communiquai à quelques frères qui m'entouraient le passage de Bède qui nous était opposé. Aussitôt, transportés d'indignation, ils s'écrièrent que Bède était un imposteur, qu'il tenait pour plus digne de foi le témoignage d'Hilduin, leur abbé, qui avait longtemps parcouru la Grèce entière pour vérifier le fait, et qui, après en avoir reconnu l'exactitude, avait péremptoirement levé tous les doutes dans son histoire de Denis l'aréopagite. L'un d'eux me priant alors avec instance de faire connaître mon avis sur le litige de Bède et d'Hilduin, je répondis que l'autorité de Bède, dont les écrits sont suivis par toute l'Église latine, me paraissait plus considérable. Enflammés de fureur, ils commencèrent à crier que je venais de prouver manifestement que j'avais toujours été le fléau du monastère et que j'étais traître au pays tout entier auquel je voulais enlever une gloire qui lui était particulièrement chère en niant que l'aréopagite fût leur patron. Je répondis que je n'avais rien nié et qu'au surplus il importait peu que leur patron fût aréopagite ou d'un autre pays puisqu'il avait obtenu de Dieu une si belle couronne. Mais ils coururent aussitôt trouver l'abbé et lui répétèrent ce qu'il m'avait fait dire. Celui-ci s'en réjouit, heureux de trouver une occasion de me perdre, car il me craignait d'autant plus qu'il était encore plus malfamé que ses moines. Il réunit donc son conseil et devant tous les frères assemblés, il me fit de sévères menaces, déclarant qu'il allait immédiatement m'envoyer au roi pour qu'il me punît comme un homme qui avait attenté à la gloire du royaume et porté la main sur sa couronne. Puis il recommanda de me surveiller jusqu'à ce qu'il m'eût remise entre les mains du roi. Pour moi, j'offris de me soumettre à la règle disciplinaire de l'ordre si j'avais été coupable. Ce fut en vain. Alors, ne pouvant plus résister au sentiment d'horreur que m'inspirait leur méchanceté, exaspéré par les coups de la fortune et m'imaginant dans mon désespoir que l'univers entier conspirait contre moi, je profitai de l'aide de quelques frères émus de pitié par mon sort et de l'appui d'un petit nombre de disciples pour m'évader secrètement la nuit et me réfugier sur une terre du comte Thibaut située dans le voisinage et dans laquelle j'avais précédemment occupé un prieuré. Le comte lui-même m'était un peu connu. Il n'ignorait pas mes malheurs et il y compatissait. Je séjournai d'abord au château de Provins dans une chartreuse de moines de Troyes. J'avais été autrefois en relation avec le prieur et il m'aimait beaucoup. Il me reçut avec joie et m'entoura de toutes sortes d'attentions. Mais un jour, il arriva que notre abbé vint au château trouver le comte pour quelques affaires personnelles. Instruit de cette visite, j'allai trouver le comte avec le prieur, le suppliant d'intercéder en ma faveur et d'obtenir pour moi le pardon et la permission de vivre monastiquement dans la retraite qui me conviendrait le mieux. L'abbé et ceux qui l'accompagnaient mirent la chose en délibération, car ils devaient rendre réponse au comte le jour même avant de repartir. La délibération commencée, ils se dirent que mon intention était de passer dans une autre abbaye, ce qui serait pour eux un affront immense. En effet, ils considéraient comme un titre de gloire que j'eusse choisi leur couvent de préférence à tous, et ils disaient que ce serait pour eux un très grand déshonneur que je les abandonnasse pour passer chez d'autres. Ils ne voulurent donc rien entendre là-dessus, ni de ma part, ni de celle du comte. Ils me menacèrent même de m'excommunier si je ne me hâtais de revenir. Et ils firent défense absolue au prieur qui m'avait donné asile de me conserver plus longtemps, sous peine d'être enveloppé dans la même excommunication. Cette décision nous plongea, le prieur et moi, dans la plus grande anxiété. Cependant, l'abbé, qui s'était retiré en persistant dans sa décision, mourut quelques jours après. Un autre lui succéda. Je m'entendis avec l'évêque de Meaux pour le prier de m'accorder ce que j'avais demandé à son prédécesseur. Et comme il ne semblait pas disposé à y acquiescer tout de suite, j'employai l'intermédiaire de quelques amis pour présenter ma requête au roi en son conseil. J'arrivai ainsi à ce que je désirais. Étienne, alors officier de bouche du roi, fit venir l'abbé et ses amis, leur demanda pourquoi ils voulaient me retenir malgré moi et s'exposer à un scandale inévitable, sans aucun avantage possible, leur genre de vie et le mien étant absolument inconciliables. Je savais que l'avis du conseil était que l'abbaye devait au moins racheter l'irrégularité de ses mœurs par une soumission plus grande et son attachement aux intérêts temporels par un surcroît de contributions. C'est ce qui m'avait fait espérer que j'obtiendrais facilement l'assentiment du roi et de ses conseillers. Ainsi arriva-t-il. Toutefois, pour que notre monastère ne perdît pas l'honneur qu'il prétendait tirer de mon nom, on ne m'accorda la permission de prendre la retraite de mon choix qu'à la condition que je ne me placerais sous la dépendance d'aucune abbaye. Cette convention fut réglée de part et d'autre en présence du roi et de ses ministres. 12. Je me retirai donc sur le territoire de Troyes, dans une solitude qui m'était connue, et quelques personnes m'ayant fait don d'un morceau de terrain, j'élevai, avec le consentement de l'évêque du diocèse, une sorte d'oratoire de roseaux et de chaumes que je plaçai sous l'invocation de la Sainte Trinité. Là, caché avec un de mes amis, je pouvais véritablement m'écrier avec le Seigneur « Voilà que je me suis éloigné par la fuite et je me suis arrêté dans la solitude. » Ma retraite ne fut pas plutôt connue que les disciples affluèrent de toutes parts, abandonnant villes et châteaux pour habiter une solitude, quittant de vastes demeures pour de petites cabanes qu'ils se construisaient de leurs mains, des mets délicats pour des herbes sauvages et un pain grossier, des lits moelleux pour le chaume et la mousse, des tables pour des bancs de gazon. On aurait cru vraiment qu'ils avaient à cœur de suivre l'exemple des premiers philosophes, au sujet desquels saint Jérôme, dans son deuxième livre contre Jovinien, dit « Les sens sont comme des fenêtres par où les vices s'introduisent dans l'âme. La métropole et la citadelle de l'esprit ne peuvent être prises tant que l'armée ennemie n'a pas passé les portes. Si quelqu'un prend plaisir à regarder les jeux du cirque, les combats des athlètes, le jeu des histrions, la beauté des femmes, l'éclat des pierreries et des étoffes, et tout le reste, la liberté de son âme se trouve prise par les fenêtres de ses yeux, et alors s'accomplit cette parole du prophète, « La mort est entrée par nos fenêtres ». Lors donc, l'armée des troubles, faisant irruption, aura pénétré dans la citadelle de notre âme, où sera la liberté? Où sera la force? Où sera la pensée de Dieu? Surtout si l'on réfléchit que la sensibilité se retrace les images mêmes des plaisirs passés, réveille le souvenir des passions, force l'âme à en subir de nouveau les effets et à accomplir en quelque sorte des actes imaginaires. Telles sont les raisons qui déterminèrent nombre de philosophes à s'éloigner des villes peuplées et des jardins de plaisance où ils trouvaient réunis la fraîcheur des campagnes, le feuillage des arbres, le gazouillement des oiseaux, le cristal des sources, le murmure des ruisseaux, tout ce qui peut charmer les oreilles et les yeux. Ils craignaient qu'au milieu du luxe et des jouissances, la vigueur de leur âme ne fût énervée, sa pureté souillée. Et, effectivement, il est inutile de voir souvent les choses qui peuvent séduire et de s'exposer à la tentation de celles dont on ne pourrait plus se passer. Voilà pourquoi les pythagoriciens, évitant tout ce qui pouvait flatter les sens, vivaient dans la solitude et les déserts. Platon lui-même, qui était riche et dont Diogène foulait un jour le lit sous ses pieds souillés de boue, Platon, afin de pouvoir se livrer tout entier à la philosophie, choisit pour siège de son académie une campagne abandonnée et pestilentielle, loin de la ville, afin que la perpétuelle préoccupation de la maladie brise la fougue des passions et que ses disciples ne connussent d'autres jouissances que celles qu'ils tireraient de l'étude. Tel fut aussi, dit-on, le genre de vie des fils des prophètes, sectateurs d'Élysée. Saint Jérôme, qui parle d'eux comme des moines de ce temps, dit en autre chose. Les fils des prophètes que l'Ancien Testament nous représente comme des moines se bâtissaient de petites cabanes vers le cours du Jourdain et abandonnaient les villes et la société des hommes pour aller vivre de grains broyés et d'herbes sauvages. De même, mes disciples, élevant de petites cellules sur les bords de l'Arduzon, ressemblaient plutôt à des ermites qu'à des étudiants. Mais plus leur affluence était considérable, plus les privations qu'ils s'imposaient, conformément aux prescriptions de mon enseignement, étaient rigoureuses, plus mes rivaux y envisageaient de gloire pour moi et de honte pour eux. Après avoir tout fait pour me nuire, ils souffraient de voir la chose tourner à mon avantage. Et, selon le mot de saint Jérôme, loin des villes, loin des affaires publiques, des procès, de la foule, l'envie, comme dit Quintilien, vint me relancer dans ma retraite. Au fond de leur cœur et tout bas, ils disaient « Tout le monde s'en est allé après lui. Nos persécutions n'ont rien fait. Nous n'avons réussi qu'à augmenter sa gloire. Nous voulions éteindre l'éclat de son nom, nous l'avons fait resplendir. Voilà que les étudiants, qui ont sous la main dans les villes tout ce qui leur est nécessaire, dédaignent les agréments des villes, courent chercher les privations de la solitude et se réduisent volontairement à la misère. À ce moment, ce fut surtout l'excès de la pauvreté qui me détermina à ouvrir une école. Je n'avais pas la force de labourer la terre et je rougissais de mendier. Ayant donc recours à l'art que je connaissais pour remplacer le travail des mains, je dus faire office de ma langue. De leur côté, mes disciples pourvoyaient d'eux-mêmes à tout ce qui m'était nécessaire. Nourriture, vêtements, culture des champs, construction, si bien qu'aucun soin domestique ne me distrayait de l'étude. Mais comme notre oratoire ne pouvait contenir qu'un petit nombre d'entre eux, ils se trouvèrent forcés de l'agrandir et ils le rebâtirent d'une manière plus solide en pierres et en bois. Fondé d'abord au nom de la Sainte Trinité, placé ensuite sous son invocation, le sanctuaire fut appelé Paraclet, en mémoire de ce que j'y étais venu en fugitif et de ce qu'au milieu de mon désespoir, j'y avais trouvé quelque repos dans les consolations de la grâce divine. Cette dénomination fut accueillie par plusieurs avec un grand étonnement. Quelques-uns l'attaquèrent avec violence, sous prétexte qu'il n'était pas permis de consacrer spécialement une église au Saint-Esprit, pas plus qu'à Dieu le Père, mais qu'il fallait, suivant l'usage ancien, la dédier soit au Fils seul, soit à la Trinité. Leur erreur provenait de ce qu'ils ne voyaient pas la distinction qui existe entre l'Esprit du Paraclet et le Paraclet. En effet, la Trinité elle-même et toutes les personnes de la Trinité, de même qu'elle est appelée Dieu et protecteur, peut être parfaitement invoquée sous le nom de Paraclet, c'est-à-dire de consolateur, selon la parole de l'apôtre. Dieu béni est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toutes les consolations, le consolateur de toutes les tribulations. Et aussi, selon ce que dit la vérité, il vous donnera un autre consolateur. Qu'est-ce qui empêche, puisque toute Église est également consacrée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'elle est la possession indivise des trois, qu'est-ce qui empêche de dédier la maison du Seigneur au Père ou au Saint-Esprit aussi bien qu'au Fils? Qui oserait effacer du front du vestibule le nom de celui à qui appartient la demeure? Ou bien encore, puisque le Fils est offert en holocauste au Père et qu'en conséquence, dans la célébration des messes, c'est spécialement au Père que s'adressent les prières et pour lui que se fait le sacrifice, pourquoi l'autel n'appartiendrait-il pas plus particulièrement à celui auquel se rapporte plus particulièrement la prière et le sacrifice? N'est-il pas plus juste de dire que l'autel appartient à celui auquel on immole qu'à celui qui est immolé? Quelqu'un oserait-il prétendre que c'est plutôt l'autel de la croix de Jésus, ou de son sépulcre, ou de Saint-Michel, ou de Saint-Jean, ou de quelque autre saint, qui ne sont ni les victimes, ni les objets des sacrifices et des prières? Chez les idolâtres eux-mêmes, les autels et les temples n'étaient jamais placés que sous l'invocation de ceux qui étaient l'objet des sacrifices et des hommages. Peut-être dira-t-on qu'il ne faut dédier au Père ni les églises, ni les autels, titre qu'il n'existe aucun fait qui puisse justifier une solennité spéciale en son honneur, mais ce raisonnement, qui ne va à rien moins qu'enlever le même privilège à la Trinité, n'enlève rien au Saint-Esprit, dont la venue constitue une fête qui lui est spéciale, la solennité de la Pentecôte, de même que la venue du Fils lui assure en propre la fête de la Nativité. En effet, l'Esprit-Saint, qui a été envoyé aux disciples de Jésus-Christ comme le Fils a été envoyé au monde, peut revendiquer sa fête à lui. Il semble même qu'il y aurait plus de raison de lui vouer un temple qu'à aucune autre personne de la Sainte Trinité, pour peu que l'on regarde à l'autorité apostolique et à l'œuvre du Saint-Esprit lui-même. Effectivement, l'apôtre n'assigne de temps particulier à aucune autre personne qu'au Saint-Esprit. Il ne dit pas, en effet, le temple du Père, le temple du Fils, comme il dit le temple du Saint-Esprit dans la première aux Corinthiens. Celui qui s'attache au Seigneur n'est qu'un seul esprit avec lui. Et plus loin, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l'Esprit-Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et qui ne vient point de vous? De plus, qui pourrait méconnaître que les bienfaits des sacrements divins conférés par l'Église sont spécialement dus à l'opération de la grâce divine, c'est-à-dire du Saint-Esprit? C'est par l'eau et le Saint-Esprit, en effet, que nous renaissons dans le baptême et que, dès lors, nous devenons un temple spécial pour le Seigneur. Pour achever ce temple, l'Esprit-Saint nous est communiqué sous la forme de 7 dons, et les effets de la grâce en sont les ornements et la dédicace. Qu'y a-t-il donc d'étonnant que nous attribuions un temple corporel à celui auquel l'apôtre attribue spécialement un temple spirituel ? À quelle personne une église sera-t-elle plus justement consacrée qu'à celle à l'œuvre de laquelle sont rapportés tous les bienfaits des grâces de l'église ? Ce n'est pas qu'en appelant mon oratoire paraclet, j'ai eu l'intention de le dédier à une seule personne. Je lui ai donné cette appellation pour le motif dont j'ai parlé plus haut, c'est-à-dire en mémoire de la consolation que j'y trouvais. Je veux dire seulement que si j'avais agi dans les intentions qu'on me suppose, je n'aurais rien fait de contraire à la raison, bien que la chose fût étrangère à l'usage. 13. Cependant, tandis que j'étais, de corps, caché en ce lieu, ma renommée parcourait le monde et le remplissait de ma parole, comme ce personnage de la fable appelé Écho, sans doute parce qu'il est doué d'un organe puissant, bien qu'il n'y ait rien dessous. Mes anciens rivaux, ne se sentant plus par eux-mêmes assez de crédit, suscitèrent contre moi de nouveaux apôtres en qui le monde avait foi. L'un d'eux se vantait d'avoir fait revivre les principes des chanoines réguliers, l'autre ceux des moines. Ces hommes, dans leurs prédications à travers le monde, me déchirant sans pudeur de toutes leurs forces, parvinrent à exciter momentanément contre moi le mépris de certaines puissances ecclésiastiques et séculières, et, à force de débiter, tant sur ma foi que sur ma vie, des choses monstrueuses, ils réussirent à détacher de moi quelques-uns de mes principaux amis. Quant à ceux qui me conservaient quelque affection, ils n'osaient plus me la témoigner. Dieu m'en est témoin, je n'apprenais pas la convocation d'une assemblée d'ecclésiastiques sans penser qu'elle avait ma condamnation pour objet. Frappé d'effroi, et comme sous la menace d'un coup de foudre, je m'attendais à être, d'un moment à l'autre, traîné comme un hérétique ou un impur dans les conciles ou dans les synagogues. S'il est permis de comparer la puce au lion, la fourmi à l'éléphant, mes rivaux me poursuivaient avec la même animosité que jadis les hérétiques avaient fait à Athanase. Souvent, Dieu le sait, je tombais dans un tel désespoir que je songeais à quitter les pays chrétiens pour passer chez les infidèles et à acheter, au prix d'un tribut quelconque, le droit de vivre chrétiennement parmi les ennemis du Christ. Je me disais que les païens me feraient d'autant meilleur accueil que l'accusation dont j'étais l'objet les mettrait en doute sur mes sentiments chrétiens et qu'ils en concevraient l'espérance de me convertir aisément à leur idolâtrie. 14. Sous le coup de ces attaques incessantes, je ne voyais plus d'autre parti que de me réfugier dans le sein du Christ, chez les ennemis du Christ, quand, au moment où je trouvais une occasion de me soustraire aux embûches, je tombais entre les mains de chrétiens, mille fois plus cruels et pires que les gentils. Il y avait en Bretagne, dans l'évêché de Vannes, une abbaye de Saint-Gildas de Ruy, que la mort du pasteur laissait sans chef. Le choix unanime des moines, d'accord avec le seigneur du pays, m'appela à ce siège. Le consentement de l'abbé et des frères de mon couvent ne fut pas difficile à obtenir. C'est ainsi que la malveillance des Francs me poussa vers l'Occident, comme celle des Romains avait fait jadis Saint Jérôme vers l'Orient. Jamais, j'en prends Dieu à témoin, jamais je n'aurais acquiescé à une telle offre s'il ne se fût agi d'échapper n'importe comment aux vexations dont j'étais incessamment accablé. C'était, en effet, une terre barbare, une langue inconnue, une population brutale et sauvage, et chez les moines, des habitudes de vie notoirement rebelles à tout frein. Tel un homme qui, pour éviter un glaive suspendu sur sa tête, se lance de terreur dans un précipice et, pour retarder d'une seconde la mort qui le presse, se jette dans une autre qui l'attend, tel je me jetais sciemment d'un péril dans un autre. Là, sur le rivage de l'océan, aux voix effrayantes, relégué aux extrémités d'une terre qui m'interdisait toute possibilité de fuir plus loin, je répétais dans mes prières « Des extrémités de la terre, j'ai crié vers vous, Seigneur, tandis que mon cœur était dans les angoisses. Quelles angoisses, en effet, me torturaient nuit et jour, corps et âme, quand je me représentais l'indiscipline des moines que j'avais entrepris de gouverner, personne ne l'ignore. » Tenter de les ramener à la vie régulière à laquelle ils s'étaient engagés, c'était jouer mon existence. Je n'avais pas d'illusion. D'autre part, ne pas faire, en vue d'une réforme, tout ce que je pouvais, c'était appeler sur ma tête la damnation éternelle. Ajoutez que le seigneur du pays, qui avait un pouvoir sans limite, profitant du désordre qui régnait dans le monastère, avait depuis longtemps réduit l'abbaye sous son joug. Il s'était approprié toutes les terres domaniales et faisait peser sur les moines des exactions plus lourdes que celles-mêmes dont les juifs étaient accablés. Les moines m'obsédaient pour leurs besoins journaliers, car la communauté ne possédait rien que je pusse distribuer, et chacun prenait sur son propre patrimoine pour se soutenir, lui et sa concubine, et ses fils et ses filles. Non content de me tourmenter, ils volaient et emportaient tout ce qu'ils pouvaient prendre pour me créer des embarras et me forcer soit à relâcher les règles de la discipline, soit à me retirer. Toute la horde de la contrée étant également sans loi ni frein, il n'était personne dont je puisse réclamer l'aide. Aucun rapport de vie entre eux et moi. Au dehors, le seigneur et ses gardes ne cessaient de m'écraser. Au dedans, les frères me tendaient perpétuellement des pièges. Il me semblait que la parole de l'apôtre eût été écrite pour moi. Au dehors, les combats, au dedans, les craintes. Je considérais en gémissant combien ma vie était stérile et malheureuse. Stérile pour moi comme pour les autres, tandis qu'elle était jadis si utile à mes disciples. Je me disais qu'aujourd'hui, que je les avais abandonnés pour les moines, je ne pouvais, ni dans les moines, ni dans mes disciples, produire aucun fruit. J'étais frappé d'impuissance dans toutes mes entreprises, dans tous mes efforts, et l'on pouvait justement m'appliquer ce mot. Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. J'étais au désespoir. Quand je me rappelais les périls auxquels j'avais échappé, quand j'envisageais ceux auxquels j'étais exposé, mes épreuves passées ne me paraissaient plus rien, et je me répétais en gémissant « Ce châtiment est juste, j'ai abandonné le paraclet, c'est-à-dire le consolateur, et je me suis précipité moi-même dans la désolation. Pour éviter des menaces, j'ai été chercher le danger. » Ce qui, surtout, me torturait, c'était la pensée qu'après avoir abandonné mon oratoire, je ne pouvais prendre les mesures nécessaires pour y faire célébrer l'office divin. L'extrême pauvreté de l'endroit suffisait à peine à l'entretien d'un desservant. Mais le véritable paraclet apporta lui-même une consolation à cette douleur, et il pourvut à son oratoire comme il convenait. Il arriva en effet que l'abbé de Saint-Denis, ayant réclamé et obtenu comme une annexe autrefois soumise à sa juridiction l'abbaye d'Argenteuil, dans laquelle ma sœur en Jésus-Christ, plutôt que mon épouse, avait pris l'habit, expulsa violemment la congrégation des nonnes dont elle était prieure. Les voyant dispersés de tous côtés par l'exil, je compris que c'était une occasion qui m'était offerte par le Seigneur pour assurer le service de mon oratoire. J'y retournai donc. J'invitai Héloïse à venir avec les religieuses de sa communauté, et lorsqu'elles furent arrivées, je leur fis donation entière de l'oratoire et de ses dépendances, donation dont, avec l'assentiment et par l'intervention de l'évêque du diocèse, le pape Innocent II leur confirma le privilège à perpétuité pour elles et pour celles qui leur succéderaient. Pendant quelque temps, elles vécurent dans la misère et la désolation. Mais un regard de la divine providence, qu'elles servaient pieusement, leur apporta bientôt la consolation. Pour elles aussi, le Seigneur se montrant le véritable paraclet, toucha de pitié et de bienveillance les populations environnantes. En une seule année, j'en atteste Dieu, les biens de la terre se multiplièrent autour d'elles, plus que 100 années n'auraient pu le faire pour moi si je fusse resté. C'est que, si le sexe des femmes est plus faible, leur détresse émeut d'autant plus aisément les cœurs. Et comme aux hommes, leur vertu est aussi plus agréable à Dieu. Or le Seigneur accorda à notre chère sœur, qui dirigeait la communauté, de trouver grâce devant les yeux de tout le monde. Les évêques la chérissaient comme leur fille, les abbés comme leur sœur, les laïcs comme leur mère. Tous également admiraient sa piété, sa sagesse et son incomparable douceur de patience. Moins elle se laissait voir, plus elle se renfermait dans son oratoire pour s'absorber dans ses méditations saintes et ses prières, et plus on sollicitait avec ardeur sa présence et les instructions de ses entretiens. Tous les voisins me blâmaient vivement de ne pas faire ce que je pouvais, ce que je devais, pour venir en aide à la misère du couvent, quand par la prédication, la chose m'était si facile. Je fis donc aux sœurs des visites plus fréquentes afin de travailler à leur être utile. Les insinuations malveillantes ne manquèrent pas de s'attacher à ces visites. Ce que le pur esprit de la charité me poussait à faire, mes ennemis, avec leur malignité accoutumée, le tournaient à mal ignominieusement. « On voyait bien, disait-il, que j'étais encore dominé par l'attrait des plaisirs charnels, puisque je ne pouvais supporter l'absence de la femme que j'avais aimée. » Je me rappelais alors la plainte de saint Jérôme dans sa lettre à Azéla sur les faux amis. « La seule chose qu'on me reproche, disait-il, c'est mon sexe, et l'on n'y songerait pas si Paul n'était allé avec moi à Jérusalem. » Et ailleurs, « avant que je connusse la maison de sainte Paul, c'était sur moi, dans la ville, un concert de louanges. De l'avis de tous, j'étais digne du souverain pontificat. Mais je sais qu'on arrive au royaume des cieux à travers la bonne et la mauvaise renommée. » Et quand je reportais mon esprit sur les outrages que la calomnie avait fait souffrir à un tel homme, j'en tirais de grands sujets de consolation. « Oh, me disais-je, si mes ennemis trouvaient en moi pareille matière aux soupçons, combien leur malveillance m'accablerait. Mais aujourd'hui que la divine providence m'a affranchi des causes mêmes du soupçon, comment se fait-il que le soupçon persiste? Que veut dire la scandaleuse accusation qu'on élève contre moi ? L'état où je suis repousse tellement l'idée des turpitudes de ce genre que c'est l'usage de tous ceux qui font garder des femmes d'employer des eunuques. Ainsi le rapporte l'histoire sacrée au sujet d'Esther et des autres femmes d'Assuérus. C'était un eunuque que ce tout-puissant ministre de la reine Candace, celui que l'apôtre alla convertir et baptiser, conduit par l'ange. Si de tels hommes ont toujours occupé auprès des femmes honnêtes et modestes des postes si élevés et si intimes, c'est qu'ils étaient hors de la portée du soupçon. C'est pour écarter complètement le soupçon que le plus grand des philosophes chrétiens, Origène, voulant se consacrer à l'éducation des femmes, attenta sur lui-même au rapport de l'histoire ecclésiastique, livre 6. Je me disais qu'en cela la miséricorde divine s'était montrée plus douce pour lui que pour moi. Ce qu'il avait fait lui-même avait encouru le blâme comme un acte peu sage, tandis que, pour moi, c'était une main étrangère qui s'était rendue coupable et qui m'avait affranchi. Mes douleurs mêmes avaient été moindres par cela seul qu'elles avaient été soudaines et plus courtes. Surpris dans mon sommeil, j'avais à peine senti la souffrance de l'exécution. Mais ce que j'avais peut-être subi de moins en souffrance physique était compensé par ce que j'éprouvais des coups prolongés de la calomnie. Les atteintes portées à ma renommée étaient pour moi une torture plus grande que la mutilation de mon corps. Car, ainsi qu'il est écrit, « Bonne renommée vaut mieux que grande richesse. Celui qui se fie à sa conscience et néglige sa réputation, dit aussi saint Augustin dans un sermon sur la vie et les mœurs du clergé, est cruel à lui-même. » Et plus haut, citant l'apôtre, « Cherchons à faire le bien, dit-il, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Pour nous, c'est assez du témoignage de notre conscience. Pour les autres, il importe que notre réputation ne soit pas souillée et qu'elle brille sans tache. La conscience et la réputation sont deux choses. La conscience est relative à soi-même, la réputation au prochain. » Mais la malice de mes ennemis aurait-elle épargné le Christ lui-même ou ses membres, c'est-à-dire les prophètes, les apôtres, les saints-pères, s'ils eussent vécu du même temps, quand ils les auraient vus, le corps intact, vivre dans une familiarité intime avec des femmes? Saint Augustin, dans son livre sur l'œuvre des moines, prouve que les femmes étaient des compagnes si inséparables du Christ et des apôtres qu'elles les accompagnaient même dans leurs prédications. C'est ainsi, dit-il, qu'on voyait avec eux des femmes pourvues des biens de ce monde, qui entretenaient autour d'eux l'abondance, en sorte qu'ils ne manquaient d'aucune des choses nécessaires à la vie. Et ceux qui seraient tentés de croire que ce n'étaient point les apôtres qui permettaient à ces saintes femmes de les suivre partout où ils portaient l'Évangile, n'ont qu'à ouvrir l'Évangile pour reconnaître qu'ils ne faisaient qu'imiter l'exemple du Seigneur. En effet, il est écrit « Dès lors, il allait par les cités et les villes, évangélisant le royaume de Dieu, et avec lui, ses 12 apôtres et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits immondes et d'infirmités. Marie-Madeleine, Jeanne, épouse de Suzan, l'intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui employaient leurs richesses à pourvoir à ses besoins. D'autre part, Léon IX, réfutant la lettre du Parménien sur le goût de la vie monastique, dit « Nous professons absolument qu'il n'est pas permis à un évêque, prêtre, diacre, sous-diacre, de se dispenser, pour cause de religion, des soins auxquels il est tenu envers son épouse, non qu'il lui soit permis de la posséder selon la chair, mais il lui doit la nourriture et le vêtement. » Et ainsi vécurent les saints apôtres. N'avons-nous pas le droit de mener partout avec nous une femme qui serait notre sœur, de même que les frères du Seigneur et Céphas ? Lisons-nous dans saint Paul. Remarquez bien qu'il ne dit pas « N'avons-nous pas le droit de posséder une femme qui serait notre sœur ?» mais de mener. Ils pouvaient en effet subvenir aux besoins de leurs femmes avec le produit des prédications, sans qu'il existât entre eux de lien charnel. Certes, le pharisien qui dit en lui-même à propos du Seigneur « Si celui-ci était prophète, il saurait bien qui est celle qui le touche et que c'est une femme de mauvaise vie », le pharisien pouvait, sans doute, dans l'ordre des jugements humains, former sur le Seigneur des conjectures honteuses plus naturellement qu'on ne l'a fait sur moi. Et tous ceux qui voyaient la mère du Christ recommandée à un jeune homme et les prophètes vivant sous le même toit dans l'intimité de femmes veuves pouvaient en concevoir des soupçons beaucoup plus vraisemblables. Qu'auraient dit encore mes détracteurs s'ils avaient vu Malchus, ce moine captif dont parle saint Jérôme, vivant avec son épouse dans une commune retraite? Comme ils auraient condamné ce que le saint docteur exalte en ces termes? Il y avait là un vieillard nommé Malchus, né à l'endroit même. Une vieille femme partageait sa demeure. Tous deux, pleins de zèle pour la religion, et tellement assidus sur les marches de l'Église qu'on les aurait pris pour le Zacharie et l'Élisabeth de l'Évangile si Jean avait pu être au milieu d'eux. Pourquoi, enfin, la calomnie ne s'attaquait-elle pas au Saint-Père, qui, ainsi que nous le lisons à chaque page de l'histoire, ainsi que nous l'avons vu, ont établi et entretenu tant de monastères de femmes, à l'exemple des sept diacres par lesquels les apôtres se firent remplacer auprès des religieuses dans tous les soins de l'approvisionnement et du service. En effet, le sexe faible ne peut se passer de l'aide du sexe fort. Aussi l'apôtre déclare-t-il que l'homme est la tête de la femme, et c'est en signe de cette vérité qu'il ordonne à la femme d'avoir toujours la tête voilée. C'est pourquoi je ne suis pas médiocrement étonné de voir invétéré dans les couvents l'habitude de mettre des abbesses à la tête des femmes, comme on fait des abbés pour les hommes, et la même règle imposée par les vœux aux femmes qu'aux hommes, bien que cette règle contienne plus d'un point qui ne puisse être observé par des femmes, qu'elles soient supérieures ou subordonnées. Que dis-je ? Presque partout, l'ordre naturel est renversé, et nous voyons les abbesses et les nonnes dominer les prêtres auxquels le peuple est soumis, avec une facilité pour les induire en mauvais désirs d'autant plus grande que plus grand est leur pouvoir, plus étroite leur autorité. C'est ce qu'avait en vue le poète satirique quand il disait « Rien n'est plus insupportable qu'une femme riche. » 15. Après de longues réflexions sur ce point, j'étais résolu de faire de mon mieux pour prendre soin de mes sœurs du Paraclet, administrer leurs affaires, augmenter leur sentiment de soumission en les tenant en éveil même par ma présence corporelle et étendre de plus près ma prévoyance à tous leurs besoins. Poursuivi avec plus de persistance et de fureur par mes fils que jadis par mes frères, je voulais me réfugier auprès d'elles, loin des coups de la tempête, comme dans un port tranquille, pour y trouver enfin un peu de repos. Ne pouvant plus faire de bien parmi les moines, peut-être pourrais-je en accomplir un peu pour elles. Ainsi, du moins, je travaillerais à mon salut avec d'autant plus d'efficacité que mon soutien était plus nécessaire à leur faiblesse. Mais tels sont les obstacles que la haine de Satan a multipliés autour de moi, que je ne puis trouver un abri pour me reposer, que dis-je, pour vivre. Errant, fugitif, il me semble que je traîne partout la malédiction de Caïn. Je le répète, au dehors les combats, au dedans les craintes, me tiennent incessamment en proie. Bien plus, au dehors et au dedans tout à la fois, c'est un assaut sans cesse renaissant de combats et de craintes. Les persécutions de mes fils sont 100 fois plus infatigables et plus redoutables que celles de mes ennemis. car mes fils sont toujours là, je suis perpétuellement sous le coup de leurs embûches. Pour mes ennemis, s'ils me préparent quelque violence, je les vois venir quand je sors du cloître, tandis que c'est dans le cloître que j'ai à soutenir contre mes fils, c'est-à-dire avec les moines qui me sont confiés comme à un abbé, comme à un père, une lutte sans relâche de violence et de ruse. Combien de fois n'ont-ils pas tenté de m'empoisonner comme on l'a fait pour Saint-Benoît ? La même cause qui décida un si grand pasteur à abandonner ses pervers enfants aurait pu me déterminer à suivre son exemple. Car s'exposer à un péril certain, c'est tenter Dieu et non l'aimer, et courir le risque d'être considéré comme le meurtrier de soi-même. Comme je me tenais en garde contre leurs tentatives de tous les jours, en surveillant autant que je le pouvais ce qu'on me donnait à manger et à boire, ils essayèrent de m'empoisonner pendant le sacrifice en jetant une substance vénéneuse dans le calice. Un autre jour que j'étais venu à Nantes visiter le comte malade et que j'étais logé chez un de mes frères selon la chair, ils voulurent se défaire de moi à l'aide du poison par la main d'un serviteur de ma suite, comptant sans doute que j'étais moins en éveil contre cette sorte de machination. Mais le ciel voulut que je ne touchasse pas aux aliments qui m'avaient été préparés, et un moine que j'avais amené avec moi de l'abbaye, en ayant mangé par ignorance, mourut sur le champ. Le frère servant, épouvanté par le témoignage de sa conscience, non moins que par l'évidence du fait, prit la fuite. Dès lors, leur méchanceté ne pouvant plus être mise en doute, je commençai à prendre manifestement des précautions contre leur piège. Je m'absentais souvent de l'abbaye, et je restais dans les obédiences avec un petit nombre de frères. Mais lorsqu'ils venaient à apprendre que je devais passer par quelque endroit, ils apostaient sur les grandes routes ou dans les sentiers de traverse des brigands payés à prix d'or pour me tuer. Tandis que j'étais exposé à ces périls de toutes sortes, un jour je tombai de ma monture et la main du Seigneur me frappa rudement car j'eus les vertèbres du cou brisées. Cette chute m'abattit et m'affaiblit bien plus encore que mon premier malheur. Parfois, cependant, je tentais de réprimer par l'excommunication cette insubordination indomptable. J'arrivais même à contraindre quelques-uns des plus dangereux à me promettre, sous la foi de leurs paroles ou par un serment public, qu'ils se retireraient pour toujours du monastère et qu'ils ne m'inquiéteraient plus. Mais ils violèrent ouvertement et sans pudeur paroles et serments. Enfin, l'autorité du pape innocent, par l'organe d'un légat expressément envoyé, les obligea à renouveler leurs sermons sur ce point et sur d'autres, en présence du comte et des évêques. Même depuis lors, ils ne se tinrent pas en repos. Tout récemment, après l'expulsion de ceux dont j'ai parlé, j'étais revenu à l'abbaye, m'abandonnant aux autres qui m'inspiraient moins de défiance. Je les trouvais encore pires. Ce n'était plus de poison qu'il s'agissait, c'était le fer qu'ils aiguisaient contre mon sein. J'eus grand-peine à leur échapper sous la conduite d'un des puissants du pays. Même péril me menace encore, et tous les jours je vois le glaive levé sur moi. À table même, je puis à peine respirer, ainsi qu'il est dit de cet homme qui plaçait le bonheur suprême dans la puissance et dans les trésors de Denis le tyran, et qui, à la vue d'une épée suspendue sur sa tête par un fil, apprit de quelle félicité sont accompagnées les grandeurs de la terre. Voilà le supplice que j'éprouve à tout instant du jour, moi, pauvre moine, élevé à la prélature et devenu plus misérable en devenant plus grand, afin que, par mon exemple aussi, les ambitieux mettent un frein à leurs désirs. Ô mon très cher frère en Jésus-Christ, mon vieil ami, mon intime compagnon, qu'il me suffise d'avoir, en regard de votre affliction et de l'injustice qui vous a frappé, retracé ces traits des infortunes qui, depuis le berceau, n'ont pas cessé de m'accabler. J'ai voulu, comme je vous le disais en commençant, que, comparant vos épreuves aux miennes, vous puissiez conclure qu'elles ne sont rien ou peu de choses et que vous arriviez à les supporter avec plus de patience, les trouvant plus légères. Prenez en consolation ce que le Seigneur a prédit à ses membres, touchant les membres du démon. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si le monde vous hait, sachez que, le premier de tous, j'ai éprouvé la haine du monde. Si vous aviez été du monde, le monde aurait aimé ce qui lui appartenait. Et ailleurs, tous ceux, dit l'apôtre, qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, souffriront la persécution. Et encore, je ne cherche point à plaire aux hommes. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Et le psalmiste, « Ceux qui plaisent aux hommes ont été confondus parce que Dieu les a rejetés. » C'est dans cet esprit que saint Jérôme, dont je me regarde comme l'héritier pour les calomnies de la haine, dit dans sa lettre à Népotien, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Il a cessé de plaire aux hommes et il est devenu le serviteur du Christ. Le même, écrivant à Azéla sur les faux amis, dit « Je rends grâce à mon Dieu de m'avoir fait digne de la haine du monde. » Et au moine Héliodore, « C'est une erreur, mon frère. Oui, c'est une erreur de croire que le chrétien puisse jamais éviter la persécution. Notre ennemi, comme un lion rugissant, rôde autour de nous et cherche à nous dévorer. Est-ce là une paix ? Le voleur est en embuscade et guette les riches. » Encouragé par ses enseignements et par ses exemples, sachons donc supporter les épreuves avec d'autant plus de confiance qu'elles sont plus injustes. Si elles ne servent pas à nos mérites, elles contribuent du moins, n'en doutons pas, à quelque expiation. Et puisqu'une divine ordonnance préside à toute chose, que chaque fidèle, au moment de l'épreuve, se console par la pensée qu'il n'est rien que la souveraine bonté de Dieu laisse accomplir en dehors de l'ordre providentiel, et que tout ce qui arrive contrairement à cet ordre, il se charge lui-même de le ramener à bonne fin. Voilà pourquoi il est sage de dire sur toute chose que votre volonté se fasse. Enfin, que de puissantes consolations, ceux qui aiment Dieu peuvent trouver dans l'autorité apostolique qui dit « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est cette vérité qu'avait en vue le sage des sages lorsqu'il écrivait dans ses proverbes « Le juste ne sera pas attristé quoi qu'il arrive ». Ainsi démontre-t-il que cela s'écarte des sentiers de la justice qui s'irritent contre une épreuve qu'ils savent dispenser par la main de Dieu. Hommes soumis à leur propre volonté plutôt qu'à la volonté divine, hommes dont la bouche dit « Votre volonté soit faite », mais dont au fond le cœur se révolte et qui font passer leur volonté avant celle du Seigneur. Adieu.